quelle sonorité va-t-on utiliser quand on veut évoquer, par exemple, un personnage imaginaire, un fantôme ou un habitant d'une autre planète ou une situation inhabituelle? Ben, de préférence, il est beaucoup plus facile d'utiliser une sonorité différente de celle d'un instrument d'orchestre, qui en fait ne suggère pas à lui-même quelque chose qui soit effrayant, qui soit qui souligne une situation d'inconnu, d'horreur, etc. Si c'est un film d'horreur, par exemple, parce que tout est lié dans la musique électronique. On peut tout faire, on peut tout trouver avec les sonorités électroniques. La sonorité électronique, il n'y a pas une seule sonorité électronique, il y a des milliers de sonorités que l'on appelle électroniques. Ça dépend comment on la programme, pas seulement des sonorités en tant que son. Comment expliquer? C'est difficile à expliquer ça. C'est assez compliqué.
Des trucs comme le ring modulator. Je ne sais pas comment ça se dit en français, un modulateur de cercle, je ne sais pas, mais le ring modulator a été utilisé beaucoup pour créer des voix des androïdes, des robots. Ça commence avec la narration, ça commence avec une histoire. Et un écrivain qui a créé un scénario, qui a créé des personnages, qui a créé une histoire qui doit se dérouler. Le metteur en scène doit assurer la réalisation de cette histoire et commencer une transformation de mots sur la page. Jusqu'à des bruits, des sons qui évoquent des choses.
Et alors les gens qui veulent écouter l'œuvre qui a été faite à partir du thème que le compositeur a choisi, les gens font un rapport entre eux. Quelque chose qui est inconnu, c'est-à-dire le son, et quelque chose qui est supposé, c'est-à-dire un personnage, un être comme un extraterrestre, quelque chose qui n'appartient pas au monde actuel.
Enfin, la contemplation du ciel m'a apporté très tôt, dans l'enfance, une dimension assez particulière. J'ai choisi une étoile.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier. C'est quelque chose qui est quelque chose qui fait partie. Ça fait partie de l'histoire. La musique fait partie de l'histoire, voyez-vous.
Je cherchais à avoir mon étoile parce que mes frères qui faisaient un peu de camping la nuit, tout ça, m'ont raconté qu'ils dormaient à la belle étoile. Et ça a été une vraie quête pour moi de chercher la belle étoile. Puis un jour, j'en ai lu une, donc je suis resté des heures à contempler la voûte céleste. On disait en ce temps-là, et puis il y en a eu une qui m'a plu, c'était pour la plus brillante, c'était machin. Après, j'ai su son nom, c'est Bellatrix, et ça a été ma belle étoile. Et entre elle et moi, il y a eu là un rapport qui a été forcément, on dirait presque anthropomorphique, c'est qu'il fallait bien qu'on se raconte des histoires.
Et par exemple, depuis les années, vers les années 1930 par là, il y a beaucoup d'inventeurs qui ont conçu des instruments de musique que l'on a appelé électronique. Bon, comme, je ne sais pas, par exemple, je donne l'exemple du theremin, par exemple. Le theremin, c'était un instrument que l'on branchait sur le courant et on arrivait à obtenir des sonorités et de les faire mélodiquement avec beaucoup de difficultés, faire une mélodie en utilisant les deux mains. C'est-à-dire... C'est compliqué à expliquer le theremin. On ne touche pas, ça se fait par l'imposition, comme l'imposition des mains, mais plus on bouge les mains, plus on change non pas la sonorité, qui reste toujours la même, mais la gamme, c'est-à-dire les notes. Parlons des notes. Ce ne sont pas des notes comme celles que l'on obtient avec des instruments comme le piano, l'orgue, etc., etc., où les sons sont séparés les uns des autres par un demi-ton. C'est-à-dire vous avez le do, ensuite vous avez le do dièse. Mais entre do et do dièse, vous ne pouvez pas faire intervenir ce qui se passe entre le do et le do dièse. Bon, c'est un exemple, hein. Bon, si vous avez, par exemple, ce qu'on appelle une quinte en musique, c'est-à-dire 5 de do à sol, vous pouvez faire do et sol, mais vous ne pouvez pas jouer les sons intermédiaires, sauf en demi-ton. Les compositeurs utilisaient, par exemple, le theremin, les ondes Martenot, ou les synthétiseurs, par exemple, le synthétiseur Moog. Voilà, je dis Moog parce que c'est celui que j'utilise le plus volontiers. Vous pouvez obtenir cela avec ce qu'on appelle une corde. Vous allez du grave à l'aigu d'une façon continue, sans passer par les demi-tons.
La figuration sonore récente, depuis, je dirais, au moins, Rencontre du troisième type, mais voilà, ça c'est quand même une bonne marque, parce qu'elle est très connue et qu'elle est plutôt importante dans le domaine. Mais voilà, à partir de ce moment-là, les vaisseaux extraterrestres, quels qu'ils soient, auront des sons de réacteurs. Vous voyez, dans District 9, il y a une superbe soucoupe. Tout ça, c'est redevenu technologique, au sens humain du terme. C'est-à-dire, il y a des ordinateurs pour le piloter, il y a des portes avec des serrures. Enfin, on est dans une technologie très très humaine, très très humanisée, qui n'a plus rien d'extraordinaire. Et de fait, l'illustration sonore de ces environnements est là aussi complètement normalisée. Au sens où ce sont des bruits hydrauliques, atmosphériques et essentiellement des sons de réacteurs.
Oui, oui, je suis d'accord. Je pense aussi qu'il faut se rendre compte que en espace où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de bruit. Oui, oui, oui. Mais on doit oublier ça, parce que quand on écrit pour la radio, quand on écrit pour la télévision, il faut adapter la réalité en une fiction qu'accepterait le public. Et le public, s'il se rend compte de ces faits, doivent les oublier pour se transmettre dans ce monde, dans cet espace, dans cette galaxie où les événements se déroulent.
Je ne suis pas aussi sûr que ça, de ce que vous dites. C'est que il n'y a pas de transmission de son. Pas de transmission de son, puisqu'il n'y a pas de molécules. Le son étant un phénomène mécanique, donc il lui faut un milieu, il n'y a pas de milieu. Mais il y a quand même du milieu. C'est que lorsque j'arrive sur un astre quelconque, il y a une matière, là il y a du son. Il y a du son, forcément, puisqu'il y a de la matière. Le son à l'intérieur du Soleil, il existe. Le son à l'intérieur de Saturne existe. Il y a de la matière rocheuse et tout ça. Donc dans la matière rocheuse, il y a des vibrations qui passent. Elles s'arrêtent après parce qu'il n'y a plus d'air pour transporter. Et les astres, le ciel n'est pas muet. Où est de matière? C'est le vide qui entre et qu'on n'entend pas. Mais c'est encore plus sympathique, je trouve. J'en reviens à ma petite histoire quand j'étais allongé de contempler hypnotiquement une étoile. Voilà, forcément, il se passe des choses à l'intérieur qui sont indéfinissables, mais qui façonnent d'une certaine manière dans tous vos sens, aussi bien tactile, la peau, le regard, l'oreille intérieure et tout. Il y a des phénomènes, mais que connaissent à grande échelle tous les ascètes, les ermites qui ont écrit.
Mais il y a quand même aussi beaucoup de silence et un vrai travail sur le silence comme environnement sonore. Ça, c'est quand même c'est ça qui est génial, quoi.
Non, c'est ça l'hallucination totale, mais positive, qui n'est pas celle du malade en un couteau et à les flinguer.
Oui, peut-être la musique symphonique, tout un orchestre, peut être très impressionnant. Et ainsi comme l'espace, l'espace et les choses extraterrestres imaginées sont très impressionnants, et cette musique aussi peut être très impressionnante. Il y a un rapport entre les deux. La musique d'un orchestre peut être très très fort et très mystérieux aussi. On a beaucoup, beaucoup de possibilités avec un orchestre symphonique pour créer des sons très évoquants, des sons très originaux. Tout reste possible. Si on n'a qu'un musicien ou deux musiciens, si on n'a qu'un guitare, alors les possibilités sont très restreintes. Mais avec tout un orchestre, on peut expérimenter, on peut beaucoup faire.
C'est effectivement le côté espace est lié aussi à un côté de conquête, tout à fait héroïque, et que qui était souvent accompagné d'une musique symphonique assez assez standardisée, de conquête, de grande, enfin de, voilà, que ça, on met ça, on s'est déjà dit que le symphonique était une des sources d'illustration de l'espace les plus adaptées pour le côté grand espace à découvrir, etc. Enfin,
ah, c'est plutôt le potentiel mélodique, parce que le potentiel rythmique est quelque chose qui est stable, alors que mélodiquement parlant, on peut changer le son, on peut le on peut le faire évoluer d'une autre façon. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. On fait chanter un son.
Ouais, ça me paraît très, très fort, effectivement. Autant la conquête version science-fiction, version Avatar, peut prendre même garde l'espace un binaire martial pour s'affirmer, autant Kubrick, lui, il a bien senti que le mouvement de l'univers était justement pas dans cette espèce, comment on dit, d'anthropocentrisme, quoi, enfin, de truc bassement bipédique, et que le mouvement de l'univers était ne correspondait pas à cette subjectivité de l'homme en tant que se considérant quasiment seul dans l'univers, et puis, enfin, déjà sur sa planète, et puis capable d'autoriser à tout, quoi, je veux dire, dans une espèce de bonne conscience.
On peut par exemple jouer une boucle à l'envers. Ça aura vous aurez une autre connotation. Si vous jouez un mot au lieu de le jouer à l'endroit où vous jouez à l'envers, évidemment vous ne le reconnaissez pas. Et ça a une connotation un petit peu planétaire, si vous voulez.
Bah, plutôt Moog, effectivement, ou Moog ou n'importe quel autre modulaire, parce que susceptible de générer des interactions ondulatoires impossibles d'obtenir avec d'autres.
Alors ça, j'ai pas d'informations sur le pourquoi ils ont choisi ces éléments sonores-là. Ben, c'est le motif de l'alien, de l'étrangeté, de quelque chose qui n'est pas terrestre, quoi. Donc en fait, si je me mets à leur place, voilà, le but du jeu, c'est de produire un son et des images qui ne renvoient à rien de connu fabriqué par les hommes. Donc il s'agit de chercher. Alors pour la forme des soucoupes, bon, ils sont un peu contraints effectivement par la mythologie existante et qui déjà indique que voilà, ça peut avoir une forme ronde. Après, il y a tout un tas de déclinaisons sur cette forme qui vont être la très grande gamme, la très grande variété de formes des soucoupes, hein, qui ont vraiment tout un tas de formes sur la base de sur une base circulaire. Mais bon, donc ça, il y a au fond le seul donné, c'est la forme circulaire. Et après, tout le reste, on peut imaginer et inventer. Avec la contrainte qu'il faut être, disons, le plus éloigné possible de quelque chose d'identifiable et de reconnaissable comme humain. Donc, sur le son, ils ont plus de liberté. Et on peut effectivement aller chercher... Alors, du côté, évidemment, des sonorités électroniques qui sont encore... extrêmement moderne, enfin, et qui vont le rester encore quand même un bout de temps, parce que bon, tout ça existe dans la musique expérimentale depuis les années 20, quoi, mais très largement, c'est quand même encore très largement inconnu du grand public. Donc toutes les expérimentations de type theremin, etc., les premiers oscillateurs, voilà, ça sert dans des contextes de musique expérimentale, mais jamais, au grand jamais, dans un contexte grand public où, voilà, je veux dire, l'environnement sonore de référence du grand public des années 50, c'est quand même la country music, le folk et les débuts du rock'n'roll. Vraiment, le premier grand film de soucoupe, hein, c'est le 1951 The Day the Earth Stood Still. Alors, on peut citer, mais de façon très anecdotique, un antécédent de 1950 qui s'appelle The Flying Saucers par Michael Conrad, mais qui est vraiment assez secondaire, qui est un petit film pas très connu, et qui justement est plutôt un contre-exemple au sens où voilà, il travaille pas sur ce qui va devenir l'idée des soucoupes, c'est-à-dire voilà, des caractéristiques étranges, en particulier des caractéristiques de vol qui sont différentes de celles des avions ou des fusées. Donc l'objet volant de Le Conrad est une espèce d'avion à réaction, quoi. Y compris par le bruit, d'ailleurs.
C'est sûr que la musique électronique a donné des moyens, entre guillemets, plus abstraits. Donc, comme on se dégageait de l'instrument, on peut imaginer qu'on se rapproche plus d'un phénomène ondulatoire.
Effectivement, ces sonorités, particulièrement celles électroniques des premiers synthétiseurs, en quelque sorte, n'avaient pas de référent culturel. Si bien que les imaginer venant d'ailleurs, ça permettait de les valider. Et donc d'ouvrir à une rêverie et d'expliquer que c'était sinon la musique du futur, du moins la musique de l'espace. C'était un artifice en quelque sorte de la légende des musiques, du sujet des musiques pour faire admettre ces sonorités-là. On fait une œuvre que l'on appelle ça, je sais pas, symphonie quelque chose, avec que des sons électroniques, il y a presque une posture culturelle par rapport à l'idée que l'on se fait de la symphonie. Par contre, si on appelle cette œuvre, je sais pas, Voyage vers Mars,
donc cet extraterrestre, le personnage de l'extraterrestre de Robert Wise, vient pour dire aux terriens, attention, vous avez inventé la bombe atomique, vous avez inventé la fusée, et bien maintenant, grâce à la combinaison de ces deux armes, vous mettez en danger, y compris les populations extraterrestres dans l'univers.
Oui, là, mais c'est quasiment au niveau du bruitage.
Si on imagine une soucoupe telle qu'elle pourrait se déplacer à la surface de l'eau, par exemple.
Oui, là, mais c'est quasiment au niveau du bruitage.
Donc, voilà, c'est ça l'idée, quoi.
Il ne peut être qu'abstrait.
L'idée que de rendre à l'origine cette expression, c'est un vol atypique, et en particulier quelque chose qui n'a rien à voir avec le vol des avions, avec le vol des vaisseaux normaux, quoi.
Et voilà, donc c'est le recours au thérémine, à l'onde Martenot, à ces sons qui sont glissants et qui sont très très difficiles à obtenir avec les instruments traditionnels. Donc on est effectivement dans ce référent là, c'est-à-dire il y a au fond une esthétique du son qui petit à petit effectivement c'est devenu un stéréotype.
J'allais dire, c'est une sorte d'assaise, puisque vous allez écouter ce qui est inécoutable. Donc c'est pareil, c'est les croyants qui entendent la voix de Dieu, c'est la même chose.
Parce que, évidemment, par exemple, l'espace, c'est quelque chose d'inconnu. Alors, on va associer à l'espace une sonorité inconnue.
Quelque part, c'est rentré dans le côté particulier de l'espace. Et que, voilà, une matière qui, sur Terre, pouvait former un parfum, pouvait former n'importe quelle autre poussière d'étoile, enfin voilà, parlons de poussière d'étoile, et puis encore au-delà de particules, et donc que quelque chose qui, quelque part, se transforme en un son concret qui utilise une matière agglomérée d'une certaine manière, pourrait, moyennant des phénomènes de transformation, de filtration, de n'importe quoi, du son qui sont techniques, enfin des compositions informatiques, enfin électroniques, fabriquer un nouveau matériau qui puisse, c'est comme si les particules s'étaient réagencées autrement ailleurs dans l'univers, quoi. Et de toute façon, tout ça, il y a rien de fixe. Enfin, moi, je suis très, 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 très particulière, comme ça. Enfin, dans mon imagination, je peux très facilement passer à travers une table. Ça ne me pose pas de soucis. Je conçois très bien que une table devant moi n'est pas un élément solide quelque part, quoi. Et ça, le son étant dans cette invisibilité-là permet de...
Je vais avoir un peu de mal à expliquer parce que il y a aussi, je pense, un problème de génération. Que j'ai, moi, dans mon répertoire spirituel, en gros, la base, c'est la musique acoustique, produite par des instruments acoustiques. Et puis, l'arrivée, je l'ai vécu, donc, musique raide, musique électronique, etc.
Oui, exactement.
Qui est venu s'ajouter. Mais ça reste, là, pour moi, la musique électronique. En gros, c'est comme si elle était produite par un instrument, c'est une sorte d'autre instrument acoustique. L'électricité reste pour moi un instrument acoustique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire la musique électronique elle-même, c'est devenue familière, disons depuis au moins les années 70, quoi, ou même les années 60 largement, quoi. En tout cas, elle est intégrée à ce moment-là dans la musique. Et donc, il y a plein d'effets sonores qui deviennent très familiers. Donc du coup, voilà, si vous voulez faire étrange, ben va falloir jouer différemment. Le synthétiseur n'est plus étrange, quoi.
La question est toujours la même. Quel est le sujet finalement des musiques? Et ce type de sujet, c'est ailleurs, c'est au-delà. Ce futur convenait très très bien à ces sons. Ça faisait partie du package publicitaire en quelque sorte.
Voilà, c'est ad. Tout est rapporté à ma propre échelle sensorielle.
L'origine, c'est une histoire. C'est un article de journal qui reprend, qui traduit le témoignage d'un aviateur qui s'appelle Kenneth Arnold. Ça, c'est en 48. Donc c'est le premier témoignage qui rapporte qu'il a vu, il est en vol au-dessus de Washington, et il voit 9 objets volants qui va décrire ensuite et qui va redécrire, parce que Kenneth Arnold va être ensuite tenu pour l'inventeur originaire de la soucoupe volante. Donc on a des centaines de pages sur des témoignages et des commentaires a posteriori de son témoignage. Ou en tout cas, il explique bien que ce qu'il a vu n'a pas la forme d'un rond, mais au contraire d'une espèce de boomerang, hein, quelque chose qui serait plutôt comme un arc de cercle. Il y a un sondage qui est publié dans Life, je crois que c'est en 50 ou en 49, et qui en gros qui liste les hypothèses. Donc ça peut être aussi des hallucinations collectives, ça peut être des météores, ça peut être des prototypes. Et en fait, ce sondage ne mentionne même pas l'hypothèse extraterrestre.
Mais je cherchais des sons qui, je pense que j'étais à la fois dans la continuité de... Là, nous parlons de bruitage, hein, donc d'une sorte de réalisme par le son de l'image. Alors rien n'est réel parce que le vaisseau n'existe pas. Et le son n'existe pas, mais il faut rendre la chose d'une manière crédible. Par exemple, le sabre au laser de la guerre des étoiles. J'ai rencontré le designer son qui est un Américain. Je trouve qu'il a fait une trouvaille absolument extraordinaire. Il fait date. Il a trouvé le vrai son du sabre laser. Bien que le sabre laser n'existe pas, mais on peut pas imaginer un sabre laser maintenant avec un autre son que celui-là. Et donc il y a une part de création extrêmement importante, mais c'est une création qui est une fonction créative qui est très intéressante parce qu'il s'agit de rendre réelles des choses qui ne sont que purement imaginaires.